Féodalité hindoue, construction de l'État et transformation des castes. Avant d'en arriver au recensement mené sous le British Raj, il est utile de commencer par résumer ce que l'on sait des structures sociales indiennes avant l'arrivée des Britanniques à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, et donc avant l'invention des castes sous leur forme coloniale. Nos connaissances sont limitées, mais elles ont progressé au cours des dernières décennies. De façon générale, de nouveaux travaux ont permis de montrer que les relations sociales et politiques étaient en perpétuelle transformation et redéfinition en Inde entre le XVe et le XVIIIe siècle, suivant des processus et des logiques qui n'étaient sans doute pas très différents de ceux observés en Europe à la même époque, quand le système féodal et trifonctionnel traditionnel et les processus de construction de structures étatiques centralisées nouvelles entraient en confrontation. Il ne s'agit pas de nier les spécificités du régime politico-idéologique et inégalitaire lié aux castes indiennes, qui mettent en jeu des notions singulières de pureté rituelle et alimentaire, une forte endogamie intra-jati, et des formes particulières de séparation et d'exclusion entre les classes élevées et les classes les plus basses, les intouchables. Mais pour bien comprendre la multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles, il est essentiel d'insister aussi sur les points communs entre les évolutions européennes et indiennes, en particulier du point de vue de l'organisation politique trifonctionnelle de la société et des conflits et transformations sociales qui agitaient l'ensemble de ces sociétés. Dans le contexte de la domination coloniale, les Européens ont abondamment insisté sur l'étrangeté absolue des castes indiennes, réputées figées et sans histoire, ce qui leur permettait de justifier leur mission civilisatrice et d'asseoir leur contrôle. Incarnation vivante du despotisme oriental, opposée en tout point aux réalités et aux valeurs européennes, les castes indiennes constituent l'exemple paradigmatique de la construction intellectuelle visant à justifier l'œuvre coloniale. L'abbé Dubois, qui publie en 1816 l'un des premiers ouvrages sur les mœurs, les institutions et les cérémonies des peuples de l'Inde, fondé sur quelques témoignages épars de missionnaires chrétiens de la fin du XVIIIe siècle, en tire une conclusion sans appel. D'une part, il est impossible de convertir les hindous, car ils sont sous l'emprise d'une religion abominable. D'autre part, les castes constituent la seule façon de discipliner un peuple pareil. Tout est dit, les castes sont oppressives, mais il faut s'appuyer sur elles pour faire régner l'ordre. De nombreux savants britanniques, allemands et français du XIXe siècle ont abondé en ce sens, et ce mouvement s'est poursuivi jusqu'au milieu du XXe siècle et parfois au-delà. Les travaux de Max Weber sur l'hindouisme, publiés en 1916, tout comme l'ouvrage de Louis Dumont, publié en 1966, décrivent un système de castes qui est implicitement supposé inchangé dans ses grandes lignes depuis le Manus Priti, avec à son sommet des brahmanes éternels, dont la pureté et l'autorité n'auraient jamais été sérieusement contestées par les autres groupes sociaux. Ces auteurs s'appuient principalement sur les textes hindous classiques et les traités légaux à visée normative et religieuse, à commencer par le Manusmriti, régulièrement cité. S'ils sont plus mesurés que l'abbé Dubois dans leur jugement sur l'hindouisme, leur approche reste relativement textuelle et anhistorique. Ils ne cherchent pas à étudier les sociétés indiennes comme des processus sociopolitiques conflictuels et évolutifs, ni à rassembler des sources permettant d'analyser leur transformation, mais bien plutôt à évoquer une identité supposée par hypothèse éternelle et figée. Depuis les années 1980-1990, de multiples travaux fondés sur des sources nouvelles ont permis de combler ces lacunes. De façon peu surprenante, les sociétés indiennes étaient des sociétés historiques complexes et évolutives, sans grand rapport avec les castes figées évoquées à l'époque coloniale ou avec les quatre varnas théoriques du Manusmriti. En confrontant les chroniques et les sources hindoues et musulmanes, Sanjay Subramaniam a par exemple étudié les transformations des relations de pouvoir et de cour entre les royaumes hindous et les sultanats et empires musulmans entre 1500 et 1750. La dimension pluriconfessionnelle apparaît centrale pour comprendre les dynamiques en jeu, alors que les travaux de l'époque coloniale avaient tendance à séparer de façon étanche les identités et les logiques sociales et politiques à l'œuvre dans les sociétés hindoues et musulmanes du sous-continent, ou bien, le plus souvent, à ignorer purement et simplement les secondes. Au sein des États musulmans, il faut aussi distinguer les sultanats chiites, comme celui de Bijapur, et les États sunnites, comme l'Empire moghol, entre lesquels transitent des élites et pratiques communes et des réflexions sur l'art de gouverner des communautés plurielles. Les méthodes de gouvernement étaient toutefois bien différentes de celles des colonisateurs britanniques, et aucun recensement de la population comparable aux recensements coloniaux ne fut organisé par ces États. Les travaux de Susan Bailey et de Nicholas Dirks ont également permis de mettre en évidence les processus de renouvellement permanent des différentes élites militaires, politiques et économiques au sein des royaumes hindous, et le fait que les brahmanes étaient souvent dominés par les classes guerrières. De façon générale, les structures sociales en vigueur dans les États hindous, comme dans les sultanats musulmans, mettent en jeu des relations de propriété et de pouvoir qui rappellent celles observées en France et en Europe. On observe notamment des systèmes de rente foncière cumulative sur une même terre versés par les paysans libres aux brahmanes et aux kshatriyas locaux, pour prix de leurs fonctions religieuses et régaliennes, alors que certains groupes de travailleurs ruraux assimilés aux shudras ne peuvent posséder la terre et ont un statut s'approchant du servage. Les relations sont sociopolitiques et économiques autant que religieuses, et elles évoluent en fonction des rapports de force politico-idéologiques entre les groupes sociaux. Le cas du royaume hindou de Pudukkottai, dans le sud de l'Inde, Tamil Nadu actuel, est révélateur. C'est une énergique petite tribu locale, les Kalars, considérée partout ailleurs comme une caste de basse extraction, et que les Britanniques classifieront plus tard comme caste criminelle, ce qui facilitera leur mise au pas, qui parvint à prendre le pouvoir et à se constituer comme nouvelle noblesse guerrière et royale au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils finirent par contraindre les brahmanes locaux à leur prêter allégeance, moyennant l'octroi aux prêtres, temples et fondations brahmaniques de domaines terriens exemptés d'impôts. Ces relations de pouvoir n'apparaissent pas très éloignées de celles entretenues dans le contexte de la féodalité européenne entre les églises et les monastères et les nouvelles classes nobles et royales, qu'elles soient issues de conquêtes ou sorties du rang, ce qui, en Europe comme en Inde, survient régulièrement. Il est intéressant de noter que c'est uniquement au moment où le colonisateur britannique renforce son emprise sur le royaume, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, au détriment de la classe guerrière hindoue et des autres élites locales de Pudukkottai, que les brahmanes voient leur influence s'accroître et leur prééminence reconnue par les nouveaux maîtres, notamment pour imposer leurs normes religieuses, familiales et patriarcales. Plus généralement, l'effondrement de l'État moghol, autour de 1700, contribue à l'éclosion de multiples royaumes hindous à partir de nouvelles élites militaires et administratives. Ces groupes et leurs alliés brahmanes ont alors recours pour asseoir leur domination à l'idéologie ancienne des Varnas, qui connaît une certaine renaissance à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle, d'autant plus que le développement de nouvelles formes étatiques permet d'appliquer les normes religieuses, familiales et alimentaires des hautes castes à une échelle plus vaste et avec plus de systématicité. Le fondateur de l'Empire Marathe, Shivaji Bhonsle, était initialement membre d'une classe de cultivateurs marathes et remplissait des fonctions de collecteur d'impôts pour des sultanats musulmans alliés à l'Empire moghol. Il parvient à consolider un pouvoir étatique hindou indépendant dans l'ouest de l'Inde dans les années 1660 et 1670, avant de demander aux élites brahmanes locales de lui reconnaître un statut de kshatriya deux fois né. Les brahmanes hésitent, certains considérant même que les authentiques kshatriyas et vaishyas des temps anciens ont disparu depuis l'arrivée de l'islam. Shivaji obtient finalement le précieux sésame, suivant un scénario désormais classique que l'on retrouve d'ailleurs fréquemment en Inde comme en Europe. Un compromis se noue entre une nouvelle élite militaire et les anciennes élites religieuses, afin d'apporter la stabilité sociale et politique tant désirée. Dans le contexte européen, on peut penser à Napoléon Bonaparte, obtenant d'être sacré empereur par le pape, à l'image de Charlemagne 1000 ans avant lui, puis se mettant à distribuer des titres de noblesse à ses généraux, à sa famille et à ses fidèles. Au Rajasthan, de nouveaux groupes de kshatriyas, les Rajput, se développent dès le XIIIe et le XIVe siècle à partir de classes de propriétaires terriens et de guerriers locaux, sur lesquels s'appuient parfois les souverains musulmans, puis l'Empire moghol pour maintenir l'ordre social, et qui parviennent parfois à négocier une principauté autonome. Le colonisateur britannique choisira lui aussi de s'appuyer sur tout ou partie de ces hautes classes, suivant son intérêt du moment. Dans le cas du royaume fondé par Shivaji, des ministres brahmanes, les Peshwas, finissent par occuper le pouvoir politique de façon héréditaire à partir des années 1740. Ils gênent les Britanniques de l'EIC, qui décident de les déposer en 1818, en arguant qu'ils ont usurpé un rôle de kshatriya qui n'était pas le leur, ce qui leur assure un certain succès auprès de tous ceux qui avaient peu apprécié cette inhabituelle prise de contrôle du pouvoir politique par les lettrés. De la particularité de la construction de l'État en Inde. La conclusion qui ressort clairement de ces travaux est que les Varnas hindous au XVIIe et XVIIIe siècle n'étaient pas plus figés que les classes et les élites européennes de l'époque médiévale, de la Renaissance ou de l'Ancien Régime. Il s'agissait de catégories flexibles permettant à des groupes guerriers et religieux de justifier leur domination et de décrire un ordre social aussi durable et harmonieux que possible, mais qui, dans les faits, évoluait en permanence en fonction des rapports de force entre groupes sociaux, tout cela dans un contexte de développement économique, démographique et territorial accéléré et l'émergence de nouvelles élites commerciales et financières. Les sociétés indiennes, au XVIIe et XVIIIe siècle, apparaissent ainsi tout aussi évolutives que les sociétés européennes. Il est certes impossible de dire comment se seraient transformées les différentes sociétés et constructions étatiques du sous-continent indien en l'absence de la colonisation britannique. Mais on peut penser que les inégalités statutaires issues des logiques trifonctionnelles anciennes se seraient graduellement estompées avec le processus de centralisation étatique, de la même façon que ce que l'on a observé non seulement en Europe, mais également en Chine ou au Japon, comme nous le verrons dans le prochain chapitre. À l'intérieur de ce schéma général, il existe toutefois un large éventail de possibilités. Nous avons d'ailleurs déjà noté dans le cas européen la diversité des trajectoires et la multiplicité des points de bifurcation possibles. Les propriétaires suédois, et avec eux l'ancienne noblesse, imaginèrent par exemple entre 1865 et 1911 un système politique et social où le nombre de droits de vote était entièrement proportionnel à leur fortune. Nul doute que les brahmanes et les kshatriyas livrés à eux-mêmes auraient également pu faire preuve d'imagination. On peut penser à des votes proportionnés aux diplômes, aux modes de vie ou aux habitudes alimentaires, ou plus trivialement aux propriétés, avant d'être eux aussi chassés par des mobilisations populaires. La diversité des trajectoires envisageables est d'autant plus forte qu'il existe des différences structurelles objectives entre les divers régimes inégalitaires trifonctionnels indiens et européens. Si l'on se place dans une perspective de très longue durée, la principale spécificité du cas indien par comparaison à l'Europe tient sans doute au rôle des royaumes et empires musulmans. Dans de très larges parties du sous-continent indien, les pouvoirs régaliens ont été exercés par des souverains musulmans pendant des siècles, parfois dès les XIIe et XIIIe siècles, jusqu'au XVIIIe et XIXe siècles. Dans ces conditions, il est bien évident que le prestige et l'autorité de la classe guerrière hindoue s'en sont trouvés durement éprouvés. Pour de nombreux brahmanes, les kshatriyas authentiques avaient tout simplement cessé d'exister dans de multiples régions et territoires, même si en pratique, des classes militaires hindoues pouvaient jouer un rôle de supplétif aux princes musulmans, ou se replier dans des états et principautés hindous indépendants, comme les Rajputs au Rajasthan. Ce relatif effacement des kshatriyas a aussi contribué dans les territoires en question à accroître le prestige et la prééminence des élites intellectuelles brahmanes, qui continuaient d'assurer leurs fonctions religieuses et éducatives, et sur lesquelles les souverains musulmans, et plus tard les autorités britanniques, s'appuyaient pour garantir l'ordre social, allant souvent jusqu'à valider et exécuter les sentences des brahmanes, portant par exemple sur le respect de règles alimentaires et familiales, ou l'accès aux temples, aux puits et aux écoles, et pouvant conduire jusqu'à l'exclusion de la communauté. par comparaison aux autres sociétés trifonctionnelles, en Europe mais aussi dans d'autres parties de l'Asie, Chine et Japon en particulier, et de la planète, cela a pu contribuer à conduire à une forme particulière de déséquilibre entre les élites religieuses et guerrières et à une importance hypertrophiée donnée aux premières, voire, dans certaines régions et configurations sociales, à une quasi-sacralisation du pouvoir à la fois spirituel et temporel des brahmanes. On a vu cependant à quel point de tels équilibres pouvaient se transformer et se redéfinir très rapidement avec le développement de structures étatiques hindoues s'appuyant sur de nouvelles élites militaires et politiques. La seconde spécificité importante de la trajectoire indienne, par comparaison aux évolutions européennes, tient au fait que les brahmanes constituent une véritable classe sociale à part entière, avec ses familles et ses enfants, ses accumulations et ses transmissions patrimoniales, alors que le clergé catholique doit en permanence être alimenté par les autres classes, compte tenu du célibat des prêtres. Nous avons vu comment cette singularité avait conduit dans le cadre des sociétés d'ordres européennes au développement d'institutions ecclésiastiques et d'organisations religieuses, monastères, évêchés, etc., accumulant et détenant des propriétés considérables au nom du clergé, ce qui a aussi entraîné le développement d'un droit économique et financier sophistiqué. Cela a peut-être également contribué à rendre la classe cléricale européenne, qui n'en était pas vraiment une, plus vulnérable. L'expropriation des monastères au Royaume-Uni au XVIe siècle, ou la nationalisation des biens du clergé en France à la fin du XVIIIe siècle, n'étaient certes pas des décisions faciles, mais aucune classe héréditaire n'était touchée, bien au contraire. La noblesse et la bourgeoisie en bénéficièrent largement. Dans le cas indien, l'expropriation des brahmanes et de leurs temples et fondations pieuses aurait nécessairement pris une forme plus graduelle, même si le développement de nouvelles classes dominantes non religieuses au sein des royaumes hindous au XVIIIe et XIXe siècle montre là encore que cela n'avait rien d'impossible. En tout état de cause, nous allons voir qu'au moment où la colonisation britannique interrompit ce processus de construction autochtone de l'État, la classe brahmane, telle qu'appréhendée dans les recensements, concentrait une part très importante des ressources à la fois éducatives et patrimoniales, culturelles et professionnelles.